L'Hebdo Région, Thomas Cochebret sur RCF et Radio Fidélité.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité régionale. Ce vendredi 24 février marquait les 1 an du début de la guerre en Ukraine. Et à cette occasion, nous serons dans quelques instants avec le président de l'association Vendée Ukraine qui coordonne de l'aide humanitaire. L'autre actualité également, ce sont les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie il y a une vingtaine de jours. La situation est toujours aussi compliquée sur place. Vous entendrez le témoignage d'un Syrien réfugié en Sarthe. La Convention citoyenne sur la fin de vie, elle, a remis un premier avis dimanche dernier après un vote et elle se dit favorable à l'euthanasie, à l'aide médicale à mourir et aussi que celle-ci soit accessible aux mineurs. Vous entendrez la réaction de la présidente de l'association Alliance Vita. Nous reviendrons également sur la désacralisation et la destruction il y a une semaine de 2 églises de Mayenne. Et puis enfin, vous entendrez la colère de l'adjoint au maire de Guérande dans Loire-Atlantique qui est vent debout contre une volonté de l'Union européenne de créer un label bio pour le sel de Guérande. Alors malgré l'aspect positif, au premier abord, ce label pourrait surtout bien profiter au sel de terre issu des mines. On comprendra son point de vue. Donc en fin de magazine. Voilà donc pour le programme de cette Hebdo Région. Il vous est préparé comme chaque semaine par la rédaction de RCF en joue en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo Région, l'actu de la semaine.
Et c'est avec Fanny Brevet de RCF Vendée qu'on commence cette Hebdo Région. Bonjour Fanny.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
C'était il y a 1 an, la guerre éclatait en Ukraine.
Oui, à l'occasion de cet anniversaire, le préfet de la Vendée a rendu un hommage au peuple ukrainien. Gérard Gavoury est allé ce vendredi après-midi au centre d'accueil des Gatinelles situé à Bretignolles-sur-Mer pour une rencontre avec les familles, les associations et les acteurs locaux. Depuis ce 24 février 2022, un vaste élan de solidarité s'est mis en place et Vendée Ukraine s'est fortement impliquée. Cette association qui fête cette année ses 20 ans a 2 buts, culturel et humanitaire. Mais depuis le début du conflit, elle a dû gérer d'autres missions. Alain Leda est le président de Vendée Ukraine.
Il y a 1 an, jour pour jour, notre association s'est transformée d'une association humanitaire et culturelle à une ONG tellement qu'il y a eu un engouement important de la population, hein, puisque très très vite nous avons eu des propositions de dons de matériel, nous avons eu des personnes qui se sont proposées comme familles d'accueil et nous avons aussi eu des personnes qui nous ont fait carrément des dons financiers, des associations, des concerts à notre profit, qui nous a permis de collecter très très rapidement des fonds et du matériel pour pouvoir envoyer en Ukraine et puis ensuite accueillir des familles.
Vendée Ukraine a fait venir 80 Ukrainiens en mars et avril dernier, une 50aine est retournée dans son pays. Alain Leday est admiratif de la capacité de résilience des Ukrainiens.
Ce que tout le monde ressent d'ailleurs, hein, c'est la résilience, c'est la résistance de la population. Je parle de toute la population, bien évidemment les militaires, mais là je parle de la population à ce qu'ils subissent, sans rien lâcher, et donc en continuant à se battre avec leurs âmes, ou en tout cas, pas d'indifférence, mais en prenant compte effectivement ce qui leur arrive, mais en disant qu'ils vont y arriver, qu'ils vont s'en sortir. Et je prends l'image de nos camions qu'on voit régulièrement. Ce qui est bien d'envoyer des camions régulièrement, c'est qu'au-delà de ce que l'on envoie comme matériel, c'est aussi qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir tenir parce que, en France, en l'occurrence, là du coup en Vendée, mais un peu partout, on les soutient, on pense à eux et on leur apporte le matériel et des fois des choses indispensables à la vie au quotidien.
Depuis le début de la guerre, Vendée-Ukraine s'est donc mobilisée pour acheminer des convois humanitaires. Un semi-remorque est parti tous les 15 jours.
Quand je dis un semi-remorque, pourquoi je ne mets pas de tonnage? Parce que un jour, là récemment, les derniers sont partis par exemple avec chacun 50 lits médicalisés et matelas en direction des hôpitaux de Kharkiv pour le premier et de Kherson pour le second. Mais il y a 15 jours, on a envoyé un camion qu'on a chargé de 33 palettes de matériel acheté dans une coopérative de grande surface sur les besoins qu'ils avaient réellement. Donc vous voyez, on a des envois de matériel un peu divers et variés, les vêtements bien évidemment, maintenant on n'en envoie plus. Hein. Alors pour information, on n'a plus besoin de vêtements chauds et autres, puisqu'on a plus un problème de stockage pour savoir à qui les donner quand on arrive en Ukraine.
À ce jour, l'association recherche plutôt des plats cuisinés, des denrées non périssables, des produits d'hygiène ou de puériculture et du matériel orthopédique.
Vendée Ukraine qui annonce qu'elle accueillera en avril les danseurs des Joyeux Petits Souliers. Cet ensemble chorégraphique vient de Lviv, ville située à 80 km de la frontière polonaise. Dans le reste de l'actualité vendéenne, Sodebo va produire une partie de son électricité dès l'an prochain. L'entreprise vendéenne va installer 95 000 m² de panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments. Ils seront exclusifs exclusivement dédié à la consommation électrique de la société. Ce parc sera le plus grand de France par sa surface en autoconsommation. L'installation des panneaux photovoltaïques va débuter à l'automne 2023. Le train des plages est menacé. Des élus s'inquiètent pour l'avenir de ce train qui relie Saumur au Sable d'Olonne. Cette ligne, qui traverse aussi des communes des Deux-Sèvres, doit subir un certain nombre de travaux depuis plusieurs années. Devant le montant des travaux nécessaires, 150 millions d'euros, les deux régions concernées, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, espèrent faire baisser la facture. Une contre-expertise est en cours. 7 bateaux de pêche vont être déconstruits dans les Pays de la Loire dans le cadre du plan de sortie de flotte après les difficultés rencontrées par la profession suite au Brexit. En France, ce plan touche 90 bateaux, dont la moitié en Bretagne. La détresse des Turcs et des Syriens ne cesse de grandir après les nouvelles répliques du tremblement de terre. Le bilan dépasse les 47 000 morts. En Sarthe, la diaspora syrienne est sous le choc et tente de se mobiliser à distance. Bonjour Agnès Millot.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors depuis maintenant 18 jours, Agnès, l'émotion est toujours aussi vive.
Claude Zérez est franco-syrien, ancien réfugié. Ce chrétien vit aujourd'hui dans la Sarthe, mais garde un lien très fort avec sa famille et resté à Alep. Sur WhatsApp, il reçoit en permanence des vidéos, des photos et des messages de détresse. Là-bas, depuis le 6 février, ses proches n'ont plus rien.
J'ai 57 personnes de mes beaux-frères, de mes cousins, qui ont perdu leur maison. Ils ont quitté pieds nus, en pyjama, avec une température de moins 2 degrés. Sous la pluie, dans les rues, ils sont restés de 4h17 jusqu'à 8h sous la pluie et le froid et en pyjama. C'était très dur, surtout avec les petits-enfants. Il y a eu des vieux qui n'ont pas pu descendre, ils sont sous les décombres. Et même, on a eu un grand ami, un prêtre. Lui aussi, il a été enterré sous les décombres. Donc, je ne peux pas exprimer ce que je sens.
Sur place, c'est le chaos. Le séisme et ses répliques frappent un pays déjà éprouvé par 12 années de guerre. Il n'y a plus d'hôpitaux, ni d'écoles, ni de magasins. Les installations électriques et hydrauliques sont ravagées. L'économie est exsangue. Et selon Claude Zérez, on compte 5 millions de sans-abri sur Alep et ses environs.
On a besoin de toute chose. Trouver un logement pour ses familles. Deuxième chose, la nourriture. Même le pain, on n'arrive plus à l'avoir. Troisième chose, des médicaments qui nous manquent, surtout des médicaments pour les malades de cancer et tout cela, ça n'existe pas. Quatrième chose, on a besoin du lait pour les bébés, ça n'existe pas. Les besoins sont tellement grands qu'on ne sait pas par quoi commencer à faire cela. Il n'y a plus rien, ni travail, ni rien du tout. Tout est bloqué. On dirait qu'on est dans le jugement dernier. On attend la fin. C'est une ville mourante.
Agnès, est-ce que depuis le 6 février, les dons, l'argent, les vêtements commencent à arriver sur place?
Chez les civils, c'est le sentiment d'abandon qui domine. L'aide occidentale peine à arriver à cause des blocages diplomatiques. Alors en attendant, les églises sont transformées en hébergements d'urgence. Et les associations comme Caritas ou la Fraternité chrétienne Sarthe-Orient envoient, comme elles peuvent, des aides financières.
Avec l'argent, ils peuvent là-bas assurer tout ce qu'ils ont besoin. Comme il n'y a pas des avions pour amener tout cela, donc on envoie l'argent en Turquie. Et de la Turquie, on a des amis qui ont des cousins à Alep. Ils envoient l'argent en livre syrienne à Alep. Et ce sont l'évêque et les prêtres qui vont toucher cet argent-là pour le distribuer à tout le monde. Mais les besoins sont beaucoup plus que ce qu'on offre. C'est ça le problème. Malgré tout, les gens croient et espèrent. Toujours on croit à l'espérance. Jésus ne va pas nous laisser. On attend et on espère.
En Sarthe, certaines paroisses lancent des initiatives de carême en faveur de la Syrie. Au Mans, à Saint-Aldric, les fidèles sont invités à mettre de côté 1 euro par jour et par personne jusqu'à Pâques.
Agnès Millot pour RCF Sarthe, merci beaucoup Agnès. Dans le reste de l'actualité sartoise, Gérard Chancerol, l'un des membres fondateurs du groupe volailler de Sablé-sur-Sarthe LDC, est décédé ce lundi 20 février à l'âge de 85 ans. Il était le C du sigle LDC. Mayennais d'origine, il a occupé les fonctions de président du directoire du géant de l'agroalimentaire entre 84 et 2001. Il fut aussi maire de la commune de Miré dans le Maine-et-Loire entre 89 et 2001. Le groupe LDC lui rend hommage et salue, je cite, un dirigeant et entrepreneur d'exception, laissant pour héritage des valeurs fondatrices comme le respect, la simplicité et la responsabilité. Afin de préparer la saison 2023 et le centenaire des 24 heures du Mans, l'Automobile Club de l'Ouest lance sa campagne de recrutement. Pas moins de 1000 postes sont à pourvoir de mars à juillet. Tous les profils de 18 à 64 ans sont recherchés pour des missions surtout d'accueil et d'orientation du public, mais aussi de protection des abords de la piste. Pour envoyer sa candidature, il faut s'inscrire en ligne sur recrutement.lemans.org. Les candidats retenus seront ensuite contactés par l'ACO pour participer aux différents forums d'embauche organisés dans les prochaines semaines. 300 agriculteurs de Vendée, de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire ont manifesté lundi devant la préfecture de Loire-Atlantique à Nantes. Ils venaient faire pression pour accélérer le versement du solde de leurs indemnisations pour les pertes liées à l'épizootie de grippe aviaire du printemps 2022.
L'Hebdo-Région, rencontre avec.
La Convention citoyenne pour la fin de vie a voté dimanche dernier à hauteur de 66% pour une légalisation de l'euthanasie, 72% pour une légalisation du suicide assisté et même 56% pour que celle-ci soit accessible aux mineurs. Alors pour en parler avec nous, nous sommes aujourd'hui avec l'angevine Anne-Charlotte Rimaud, présidente nationale de l'association Alliance Vita. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, Anne-Charlotte Rimaud, qu'est-ce que vous inspire ces résultats de ce premier vote de la Convention citoyenne pour la fin de vie ?
Chez Alliance Vita, en fait, on ressent de l'effroi. Quand l'objectif de cette session était d'aller au bout des idées fortes autour d'une amélioration du modèle d'accompagnement de la fin de vie et qu'on ressort avec un chiffre que 56% des citoyens se prononcent pour une euthanasie pour les mineurs, on est inquiet. Pour Alliance Vita, en fait, on pense que de tels votes fragilisent la protection de la vie des personnes porteuses de maladies ou de handicap. Finalement, les personnes qui sont déjà vulnérables sont encore plus fragilisées. Est-ce que c'est une société qui n'est plus capable de prendre soin, de soigner en prenant en compte toute la dimension de chaque personne, quelle que soit sa situation ? C'est des questions qu'on peut se poser, surtout quand c'était vraiment la question initiale de cette convention citoyenne. Nous, on le voit quand même dans notre service d'écoute SOS Fin de Vie. On a beaucoup d'appels de personnes inquiètes par rapport à comment ils vont être soignés plus tard, est-ce qu'elles vont être abandonnées, comment elles vont être prises en charge par rapport à une éventuelle nouvelle loi.
En quoi elle est importante, cette convention citoyenne sur la fin de vie, dans tout le débat législatif futur autour de cette question sur la fin de vie ?
Alors, elle est importante parce que, vous savez, les citoyens ont été choisis pour représenter les Français. On sait très bien que dans l'élaboration d'une éventuelle future loi, ce rapport aura une importance considérable. On a le sentiment, Alliance Vita, que finalement, on remet un peu en cause l'interdit de tuer. On fragilise ceux qui sont déjà en souffrance, alors que finalement, quand on fait de la prévention du suicide, est-ce réellement compatible ? On le voit bien qu'aujourd'hui, on répand l'idée qu'il vaudrait mieux mourir qu'être dépendant. Est-ce qu'une société dite moderne pourrait accepter ça ? Est-ce qu'une société peut accepter en fait, de fragiliser encore ceux qui sont encore plus fragiles ? Nous, à Alliance Vita, on se dit qu'une troisième voie est possible, une troisième voie est juste, ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, mais un développement des soins palliatifs pour accompagner véritablement jusqu'au terme de sa vie, toute personne, qu'elle soit vulnérable, qu'elle soit fragile, qu'elle soit majeure, qu'elle soit mineure.
Le porte-parole de l'association Tuc d'Huelderville, de l'association Alliance Vita, sera à Angers justement pour porter cette parole-là, et ainsi que dans plusieurs autres villes de France à partir du 6 mars.
Oui, alors en effet, Tuc d'Huelderville, notre porte-parole, commence une tournée de conférences pour essayer de comprendre les enjeux du débat sur la fin de vie, qui sont des débats à haut risque, on le voit avec le rapport qui est arrivé aujourd'hui, pour décrypter les arguments piégés autour de l'euthanasie, du suicide assisté, et puis pour proposer des réponses respectueuses de l'humanité. Tuc d'Huelderville sera donc à Angers lundi 6 mars à 20h30. C'est une conférence débat qui nécessite une inscription. Donc rendez-vous sur le site d'Alliance Vita pour réserver très vite votre place.
Merci beaucoup Anne-Charlotte Rimaud. Je rappelle donc que vous êtes présidente de l'association Alliance Vita. Dans le reste de l'actualité ligérienne, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire va changer de président. Jérôme Jumel va prendre la tête de l'agence de santé le 27 février prochain. Il succède à Jean-Jacques Coiplet. Une fête foraine à 4,5 millions d'euros. Voilà les mots choisis il y a quelques jours par le groupe écologiste au Conseil régional des Pays de la Loire pour dénigrer la toute nouvelle création de la majorité consacrée au recrutement. Un big bang de l'emploi qui doit débuter à Angers le 3 mars prochain et qui doit tourner dans les autres villes de la région à raison d'une par week-end. L'événement doit permettre aux nombreuses entreprises ligériennes en manque de bras de trouver la perle rare. Dans un communiqué, la majorité annonce en effet un événement itinérant au programme expérience ludique avec grande roue du job dating ou encore simulateur de métier, d'où les moqueries venues de l'opposition. La majorité, elle, n'a pas souhaité répondre à ce qu'elle considère comme une polémique inutile. Les élus de la majorité présidentielle au Conseil régional des Pays de la Loire, eux, réclament la démission de Michaël Juret. Dans un communiqué, François de Rugy et Éric Frémy rappellent que les Ducs d'Angers, club de hockey sur glace de la ville d'Angers, présidé par Michaël Juret, touche des subventions de la région. La société de Michaël Juret, je le rappelle, Prime Habitat, a été condamnée pour des faits de harcèlement sexuel. L'Université d'Angers pointe à la deuxième place du classement des universités publiques concernant son taux de réussite en licence en 3 ans. Avec un petit peu plus de 48%, elle se classe derrière l'Université de Mulhouse, un recul d'une place par rapport au palmarès de l'an dernier. Le Salon international de l'agriculture commence donc ce samedi à Paris. Près de 26 éleveurs bovins y participeront, un élevage équin et 10 éleveurs canins. Aujourd'hui, la région Pays de la Loire reste la deuxième région la plus agricole en France derrière la Normandie. France Nature Environnement tresse le bilan 2022 des sentinelles de la nature pour notre région. Depuis 2019, cette plateforme numérique permet aux citoyens de signaler des atteintes à l'environnement. L'an dernier, l'association a reçu près de 400 alertes dans la région, dont 144 rien que pour le Maine-et-Loire, un chiffre en hausse de 25% sur un an.
L'Hebdo Région, l'actualité religieuse.
C'est une triste nouvelle qui fait notre actu des diocèses cette semaine. Deux décrets d'exécration ont été en effet signés et annoncés publiquement concernant deux églises de la Mayenne. Petite explication de texte avec vous, Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne. Bonjour Isabelle.
Bonjour Thomas. L'exécration, dans le sens théologique, signifie qu'un lieu ou un objet sacré est rendu à son état profane et perd donc le côté sacré. C'est le cas pour deux églises en Mayenne. L'église Saint-Sulpice du Genêt-Saint-Ile, dont la démolition a commencé, et l'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien de la Baconnière, vouée elle aussi à la destruction. Alors ça et là, quelques tentatives de polémique sont apparues, vite étouffées par la raison. Et je vous propose dans un premier temps d'écouter Mgr Thierry Scherrer, l'évêque de la Mayenne, nous expliquer le contexte pour la destruction de l'église de la Baconnière.
C'est toujours une triste décision de dire qu'une église ne pourra plus être le lieu de rassemblement des chrétiens et que, étant donné son état de détérioration, il faut prendre la décision de la démolir. Ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'on prend cette décision, dans la mesure, bien sûr, où dans la plupart des cas, les mairies font le maximum pour entretenir, restaurer. Mais quand on parle justement de l'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien de la Baconnière, on est dans le cas de figure d'une église qui a subi les outrages du temps depuis plusieurs décennies, qui est tellement dégradée que son état représente un danger pour la population locale. Quand j'ai été interpellé la première fois, je me suis rendu en mairie de la Baconnière. C'était le 26 juin 2009 et nous avons rencontré l'équipe municipale, le maire et puis l'architecte urbaniste, dans la mesure où il y avait, à cette époque-là encore, on caressait l'espoir, le rêve qu'on puisse quand même maintenir l'édifice en état.
L'église de la Baconnière est ainsi fermée au culte depuis 2014. Plusieurs coups de vent violents ont ensuite porté des coups à cette église jusqu'à cette tempête de 2019 qui a fait écrouler une partie du toit.
On a rencontré plusieurs fois l'équipe municipale sur plusieurs années et tout dernièrement, bien sûr, lorsqu'il s'est agi de prendre la décision ultime, finale. Comme évêque, moi, je signe un décret d'exécration. Sans cette autorisation de l'Église, on ne peut rien faire.
Bien sûr, le patrimoine, des statuaires, des vitraux qui sont d'Alôme, seront préservés sous la responsabilité conjointe de la mairie et de la commission d'art sacré. Pour revenir à cette église, en 2014, une association de sauvegarde s'était constituée, mais les budgets de remise en état étaient tels que le couperet est malheureusement tombé. Je vous propose quand même d'écouter les suggestions de Philippe de la Mettrie, responsable de l'association Priant des Campagnes, pour éviter qu'on en arrive à toutes les extrémités.
Nous proposons, nous, Priant des Campagnes, justement, pour éviter ces décisions de destruction, de créer le plus rapidement possible une association d'amis de leur église. Nous sommes tous co-responsables. Quand nous allons dans nos campagnes, il faut ouvrir l'église, vérifier qu'elle est toujours ouverte, qu'on peut y pénétrer, qu'on peut y prier, etc. Et nous demandons à tous ceux qui prient de faire sonner la cloche en début de prière. Poussons effectivement à ces manifestations qui sont culturelles, pas tant liturgiques, culturelles, mais toujours sur un thème spirituel. une conférence sur l'histoire de cette église. Et puis des films comme Des dieux et des hommes, hein, et même sur le parvis en dehors, après la messe, inviter les villageois à un pot de l'amitié.
Voilà, la présence dans les églises, qu'elles soient cultuelles ou culturelles, n'empêchera pas la dégradation, mais pourrait peut-être motiver les élus à engager des travaux plus régulièrement.
Absolument, Isabelle, et nous ne pouvons bien sûr que nous associer à la tristesse des habitants de la Baconnière, mais aussi du Genêt-Saint-Ile, de la perte de ce lieu de culte, mais aussi de ce lieu de patrimoine dont on sait que l'église est, pour croyants ou non, l'unique point de repère qui reste dans un village. Dans le reste de l'actualité de nos diocèses, le Vatican condamne à son tour l'abbé Max de Guibert, déjà condamné par le tribunal correctionnel du Mans en janvier 2021, à 3 ans de prison ferme pour atteinte sexuelle sur mineur par personne ayant autorité sur la victime. La procédure canonique a rendu son jugement. Max de Guibert conserve le statut de prêtre, mais ne peut célébrer aucun sacrement dans une église ou une paroisse. Il écope d'une peine d'interdiction définitive de tout ministère paroissial. Il lui est également interdit d'être en contact habituel avec des mineurs et des personnes vulnérables et de résider dans le diocèse du Mans pour une période de 20 ans. Le diocèse du Mans qui rappelle son engagement dans la prévention contre toute forme d'abus et reste, je cite, « déterminé à servir la vérité et la justice ». La cellule d'accueil et d'écoute est disponible pour toute personne qui souhaite s'exprimer via le site internet sartcatholique.fr, cellule d'écoute des victimes. La direction à présent Nantes et sa région où l'on retrouve Simon Marty. Bonjour Simon.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors Simon, les élus de la presqu'île guérandaise se mobilisent en cause une histoire de sel.
De sel biologique même, Thomas. Depuis plusieurs mois, la Commission européenne travaille sur un nouveau label permettant de faire certifier en bio la production de sel. À première vue, rien de méchant, plutôt même une bonne nouvelle dans des marais salants qui sont par définition totalement naturels. Et pourtant, cette nouvelle certification pourrait être un coup dur pour la production locale, comme nous l'explique Xavier Fournier, adjoint à la mairie de Guérande.
La production de sel est un élément extrêmement important de l'économie de notre presqu'île guérandaise. Et au-delà de ça, c'est aussi une question de l'identité du territoire qui nous permet de rayonner, de faire venir des gens, découvrir le travail de nos paludiers, ce travail manuel extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'on y est tous extrêmement attachés. La stratégie de la Commission européenne, la proposition de la Commission européenne a été de permettre d'avoir un label agriculture biologique pour le sel, ce qui part d'un sentiment qui pourrait être positif. Le problème, ce n'est pas tant le label en soi que l'application qui pourrait en être faite, le fait que beaucoup de sel pourrait obtenir ce label.
Ah Simon, quand on dit beaucoup de sel, on parle de quelle quantité
hein? Ça se compte en milliers, en centaines de milliers de tonnes chaque année pour une production industrielle. Une production industrielle à l'opposé du sel naturel que l'on récolte sur la presqu'île, mais une production industrielle qui pourrait se prévaloir d'un label bio, un vrai non-sens pour l'élu.
Les personnes qui étaient sensibilisées sur ce dossier au niveau de la Commission européenne ont dû se dire que de toute façon, par essence, le sel devait être bio, vu ce qu'il représente. Force est de constater qu'il y a différentes méthodes de récolte du sel. Il y a à la fois la récolte manuelle, comme on a sur les côtes atlantiques, et particulièrement chez nous, en presqu'île guérandaise, qui font une renommée importante, mais il y a aussi des sels de mine, qui demande à ce qu'on creuse la roche, qu'on y mette des intrants chimiques, quand parfois on utilise des explosifs. Et dans la version initiale de la Commission européenne, de cet acte délégué, tous les sels étaient considérés par nature comme agriculture biologique, ce qui contrevenait évidemment à la fois au label, puisqu'on connaît tous le label AB, nos courses et ses gages d'une certaine qualité, en tout cas d'un cahier des charges. Donc ça contrevenait à ce cahier des charges, et évidemment, de fait, ça fragilisait toutes les filières qui respectent réellement l'état d'esprit du label, puisque d'un seul coup, on fait rentrer des industriels puissants qui font un tonnage beaucoup plus important de sel. On leur donne une porte d'entrée vers le consommateur importante, et ça noie dans ce cas notre sel, le sel manuel, dans la même catégorie, malgré les autres recommandations et les autres certifications qu'on peut avoir territoriales. On voit la direction que ça prend, et ce n'est pas la direction que nous souhaitons. Donc on continue à pousser pour essayer de régler autant que faire se peut, comme on l'a fait depuis le début, essayer d'ajuster les choses, et puis après s'assurer que l'acte délégué qui sort, ou en tout cas son application, soit juste. On ne demande pas beaucoup plus de choses que ça soit juste, et que ce soit de fait positif pour nos paludiers.
Le combat ne fait que commencer. Il y a quelques jours, Xavier Fournet était à Paris pour rencontrer le ministre de l'Agriculture. Il l'a assuré du soutien de la France dans ce dossier.
Simon Marty pour Fidélité Nantes. Merci beaucoup Simon. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de cette hebdo-région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite un excellent week-end.